Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. La formule est du journal Le Figaro. Le plombier polonais a trouvé sa version 2017 et elle prend la forme d'une clause appelée clause Molière qui vise à imposer la langue française sur les chantiers faisant l'objet d'une commande publique, si besoin via un interprète. Une clause qui fait débat, d'un côté plusieurs régions, principalement de droite, mais aussi des villes, des départements qui ont décidé d'imposer l'usage de notre langue sur les chantiers dont ils sont les maîtres d'œuvre. Et puis de l'autre, la Commission européenne, le gouvernement, les syndicats, le MEDEF, plusieurs candidats à la présidentielle qui s'opposent à la mesure, dont Benoît Hamon, qui en a même fait un argument de campagne et en a presque perdu la voix. Écoutez.
Quelle clause tartuffe que cette clause Molière, inventée par la droite avant les élections pour empêcher que l'on parle une autre langue que la nôtre sur les chantiers. Mais comment aurait-on reconstruit la France sans les Polonais, sans les Portugais, sans les Italiens, sans les Espagnols, sans les Marocains, sans les Algériens, sans les Sénégalais?
Alors la clause Molière, bonne ou mauvaise idée? Eh bien c'est notre sujet de ce soir, bienvenue. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Anne Le Breton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes adjointe au maire du 4e arrondissement à Paris. Vous êtes par ailleurs soutien d'Emmanuel Macron et vous êtes opposée à la clause. Vous allez nous expliquer pourquoi dans quelques instants. En face de vous, Xavier Lemoine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président du Parti chrétien-démocrate. Vous êtes également maire de Montfermeil. Vous allez nous expliquer justement ce que vous avez fait à Montfermeil. Et vous, vous êtes un fervent défenseur de cette clause. Vous avez décidé de conditionner dans votre ville l'accès des entreprises au marché public à l'usage du français sur les chantiers. Alors, question peut-être formulée de manière un petit peu cash, si je puis me permettre, mais est-ce qu'on est obligé de parler français pour bétonner une route ou pour rénover un hôpital, puisque c'est de ça dont on parle finalement avec la clause Molière?
Bah, écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste rappeler une seule chose qui passe totalement inaperçue, qui n'a, je crois, jamais encore été citée dans les médias. Il y a une loi, la loi numéro 94-665, elle est du 4 août 1994, elle est toujours d'actualité, elle n'a absolument pas été amendée d'une quelconque manière, et qui est relative à l'emploi de la langue française. Et donc dans sa version consolidée au jour d'aujourd'hui, elle indique dans son article 1, « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité du patrimoine de la France, virgule, elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics, et le lien privilégié des États constituants, etc. » Donc je dirais, je ne vois pas en quoi on peut réellement pousser des cris d'orfraie à rappeler tout simplement une loi toujours en vigueur et qui fixe le français dans le cadre de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics, au-delà d'être la langue de la République.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est pas un scoop, finalement, c'est déjà inscrit dans la loi française, rien de nouveau avec la clause Molière?
Je voudrais qu'on aille plus au fond de la question, cette clause Molière n'est en soi en rien contradictoire avec la loi, elle ne fait que répéter ce qu'une loi a prévu, mais que certains peut-être ont oublié, pour
alors,
d'autres intérêts.
Je vais évidemment faire réagir Anne Le Breton, je voulais juste souligner que certes c'est une loi qui dit quand même pas exactement la même chose, et que vous avez contre vous, alors je veux pas dire que vous êtes défenseurs d'une loi, mais vous avez quand même aujourd'hui la Commission européenne, des candidats à la présidentielle, d'ailleurs de différents partis, c'est ça qui est intéressant. Donc bon, le débat est peut-être un petit peu plus compliqué. Anne Le Breton, qu'est-ce que vous pensez de cette clause? Pourquoi vous y êtes opposée?
Alors, nous y sommes opposés aussi parce que c'est une loi qui tend à désigner l'étranger comme l'ennemi. Et derrière, le français est un prétexte, et surtout très près des élections, pour en fait, désigner l'étranger comme l'ennemi. Je pourrais pas le dire mieux. Nous avons une autre vision de la France. Une vision qui s'inscrit beaucoup plus largement dans l'Europe. Donc nous sommes très attachés à la libre circulation des travailleurs, qui est un des fondements de l'Europe. D'ailleurs, je remarque aussi que beaucoup de personnes à l'intérieur même de la droite se sont opposées à cette clause Molière.
Gérard Larcher, par exemple, président du Sénat, c'est quand même une personnalité...
Très prudent.
Dont Gérard Larcher, dont Elisabeth Morin-Chartier, qui donc est députée européenne, qui a écrit une lettre à François Fillon s'opposant de manière, mais vraiment véhémente, à cette clause Molière, rappelant que ça va à l'encontre de tous nos engagements européens, qui est donc la liberté de circulation des citoyens et des travailleurs, que c'est que c'est une clause qui finit d'enterrer les valeurs européennes portées par Jean Monnet et Robert Schuman, que c'est un repli sur soi, que c'est en plus illusoire de penser que nous réglerons les problématiques de l'emploi en nous repliant sur nous-mêmes. Donc je la cite, c'est une députée Les Républicains, une députée européenne, et c'est la lettre qu'elle a écrite à François
Pillon. Alors, on pourrait aussi considérer qu'un débat n'a pas nécessairement besoin d'être tranché de manière politique. On pourrait aussi aborder les choses d'une manière peut-être, je sais pas moi, sur les principes ou sur l'utilité économique. Alors, peut-être cette question à vous, Xavier Lemoine, est-ce que vous reprenez à votre compte cette citation de l'inventeur un petit peu de la clause Molière, hein, donc Vincent Hue, qui dit « La clause participe, selon lui, d'un double ADN », c'est l'expression qu'il utilise, sécurité, avec maîtrise des consignes, et de l'autre côté, défense de l'emploi. C'est comme ça que vous la défendez, cette clause ?
Moi, je vais vous dire, il y a les principes, et puis il y a la réalité. La réalité, quelle est-elle ? Elle est que sur les 750 millions d'euros que dans les 10 dernières années, j'ai mis en œuvre en termes de chantier, de BTP, nous avions des clauses d'insertion avec l'Agence nationale de renouvellement urbain. Au début du projet, nous étions en capacité de mettre nos jeunes, ou nos moins jeunes d'ailleurs, en insertion sociale sur les chantiers. Aujourd'hui, c'est strictement impossible, par l'obstacle systématique de la langue, dans tous les corps d'État. Premier point.
Alors, deuxième point. Mais est-ce que c'est vraiment l'obstacle de la langue, ou est-ce que c'est la directive des travailleurs détachés qui vous permet...
Concrètement, je dirais, c'est l'obstacle de la langue qui nous empêche de mettre des personnes qui vivent sur le territoire français, qu'elles soient françaises d'ailleurs ou étrangères, donc ça n'a rien à voir, et qui, parce qu'il y a obstacle de la langue sur les chantiers, ne peuvent plus être mises en insertion. Premier point. Deuxième point, ce que je vois réellement, c'est qu'en fait, on assiste à un dumping social. Alors, certes, peut-être que la clause en elle-même n'a pas été prévue pour faire ça, mais c'est comme ça qu'elle est utilisée. Elle est utilisée comme ça parce que, en principe, le salaire perçu par ces travailleurs qui viennent de l'étranger est le même que le salaire minimum en France. C'est, en théorie, vrai. Les cotisations sociales, elles sont de 50% inférieures à celles qui sont payées en France. Et donc là, vous avez un avantage compétitif très fort. Mais quand ces personnes-là viennent par minibus entier ou en camping-car ou se logent dans des conditions particulièrement précaires en France, à 5h de l'après-midi, la soirée est très longue. Et en fait, ce sont des chantiers qui durent jusqu'à 21h. Le samedi et le dimanche, c'est très long. Et donc le samedi, ils sont également sur les chantiers et éventuellement le dimanche, ils se reposent. Et là, vous avez un autre avantage compétitif. Et donc la collectivité territoriale comme la mienne, qui à partir de l'impôt, des Montfermeillois tout simplement, construit des écoles dans lesquelles je ne peux plus ni avoir des artisans des environs, je ne demande pas de ma ville, des environs, ni des PME de l'environ. Et je n'ai que des personnes qui vivent dans des conditions de déracinés par rapport à leur famille. Et moi, je constate que je ne peux plus mettre mes jeunes...
Là, vous êtes en train de décrire un phénomène qui serait un phénomène d'ampleur. Je voudrais juste citer peut-être...
C'est la réalité. Et si vous croyez que les élus, les régions... Les élus et les régions et les villes qui ont mis cette clause-là, c'est après avoir fait ces constats-là. C'est pas sur le principe du rejet de l'étranger, du repli sur soi. Ça, je dirais, pardonnez-moi, c'est de l'idéologie et de la base politique.
Mais ce que je veux juste dire, c'est que peut-être que ce que vous constatez n'est pas représentatif du reste.
Mais interrogez, madame,
s'il vous plaît, citons juste peut-être un ou deux chiffres.
Interrogez les professionnels.
Selon la Commission européenne, une étude qui a été... Oui, mais je vous interroge là, vous êtes aussi des élus. 0,2% de l'emploi dans l'Union européenne, selon une étude qui a été commandé par la Commission en équivalent temps plein aujourd'hui, c'est du travail détaché. Alors il y a un autre chiffre qui est peut-être intéressant, c'est que la France accueille aujourd'hui 340 000 travailleurs détachés. Qu'est-ce que vous répondez à ce que vient de nous dire Xavier Lemoine ?
La France détache également énormément de travailleurs.
190 000.
Oui, de 200 000 à mes chiffres, en particulier dans les zones frontalières, mais pas seulement dans les zones frontalières. Et donc, si on commence, nous, à exiger des choses qui ne sont pas dans le droit européen, je rappelle, il faut s'attendre à ce qu'on nous demande quand on va faire un chantier en Finlande d'apprendre le finnois ou en Hongrie d'apprendre le hongrois.
Madame, et donc, on ne peut pas comparer des ouvriers, je dirais, qui sont qualifiés, on va dire modestement, qui viennent de pays en difficulté économique, qui sont, je dirais, qui nous coûtent très peu cher à l'entreprise, alors que la plupart, la grande majorité, 98% des Français qui travaillent à l'étranger, c'est en raison d'une expertise que les pays en question...
Non, voilà. Si vous dites souvent ça et je ne suis pas d'accord avec vous.
Madame,
il y a 6 000 personnes personnes qui sont inscrites, 6000 Français qui sont inscrits dans des agences d'intérim au Luxembourg. Donc dire que
les questions frontalières sont
pas en même temps.
Les questions frontalières, parce que vous n'êtes pas dans une zone frontalière. Je les élus des zones frontalières ne sont pas d'accord avec vous d'ailleurs. Et je suis désolée. 6000 travailleurs pas spécialement qualifiés,
Madame,
qui sont inscrits
accorde ces 6000. Accordez-moi les 500 000 travailleurs détachés qui sont dans le BTP en France. Eh bien, ces 6000, c'est un épiphénomène par rapport à ces 500 000.
De toute façon, on va pas guerre des chiffres dans la mesure où les chiffres sont, on le sait.
Tous les ans, c'est une augmentation de 50% du nombre de travailleurs détachés. Donc, c'est un phénomène qui va en s'amplifiant et qui est suffisamment problématique pour qu'un certain nombre d'élus aient tiré la sonnette d'alarme.
Vous oubliez quelque chose, c'est qu'on a déjà commencé à travailler. Nous savons tous qu'il y a des problèmes sur cette directive travailleurs détachés. Donc, on a déjà commencé à travailler le problème. Il y a des choses qui ont été faites par la loi Macron, qui autorise d'ailleurs la possibilité de commander 25 000 pour les collectivités de faire des commandes quand elles sont à moins de 25 000 euros sans faire d'appel d'offres. Il y a aussi donc le travail qui est en train d'être fait par les députés européens à la Commission. Donc, il y a déjà des choses. Quand vous, les exemples que vous avez donnés, c'est des exemples de fraude. Donc, au lieu de travailler à aller vérifier le niveau de français des ouvriers sur les chantiers, pourquoi ne ferions-nous pas autre chose, c'est-à-dire aller plutôt vérifier la fraude qui est effectivement quelque chose qu'il faut combattre.
Madame, l'inspection du travail a été décimée. En attendant que l'inspection du travail fasse son travail, justement, moi je vois les artisans qui ferment. Je vois tout ce tissu économique de petites et moyennes entreprises liées aux bâtiments ou aux travaux publics qui ferment. Et ce mal est irrémédiable. Et à un moment donné où il paraît que la priorité numéro une, c'est le chômage, eh bien j'estime nécessaire de tirer le signal d'alarme en disant on ne peut pas continuer avec un système qui ne l'a peut-être pas voulu comme ça, mais qui fonctionne de la manière d'un dumping social qui est en train de massacrer le tissu économique. Et donc, s'il vous plaît, gardez vos leçons de morale sur le repli sur soi, la haine de l'ennemi, de l'étranger, etc.
Vous présentez, s'il vous plaît, pas en même temps. Moi, j'ai un tiers de ma population
qui est de nationalité étrangère. J'ai des personnes de basse qualification et c'est pour elles qu'on travaille et c'est pour elles qu'on a du mal à les mettre en insertion sur les chantiers. Donc, essayons de quitter ce registre idéologique et totalement hors de sujet et regardons la réalité d'un phénomène qui ne fait aller qu'en s'accroissant, qui a des dommages considérables sur nos tissus économiques locaux. Et je pense que c'est de la responsabilité des élus de poser la question.
Mais vous disiez tout à l'heure qu'il fallait demander et poser la question aux entrepreneurs. Je voudrais quand même citer, si vous permettez, l'avis de Pierre Gattaz qui préside le MEDEF. C'est le patronat français qui a dit, vous commencez comme ça, donc parlant de cette clause-là, Madame. Et puis vous faites du favoritisme, puis vous fermez les frontières et vous finissez par sortir de l'euro. C'est quand même une critique de quelqu'un qui sait de quoi il parle dans la mesure où il parle des entreprises.
Il fait de la politique politicienne, je ne pense pas que ce soit son rôle, et s'il veut éventuellement interroger les gens qui sont directement concernés, il va voir les artisans, la CAPEB, la Fédération Française du Bâtiment, ce que ces gens-là qui sont concrètement confrontés à ça, il ne s'agit pas des grandes entreprises du CAC 40 que M. Gattaz veut éventuellement représenter, qui regardent le petit tissu économique, je dirais humble et laborieux, que l'on néglige, que les politiques négligent et que les grands de ce monde, du monde économique négligent, et à ce moment-là, le son sera différent. Donc, regardons tous les avis avant
Je
pense que vous faites vraiment de la politique idéologique, parce que vous présentez cette clause Molière comme quelque chose que vous allez pouvoir appliquer facilement, alors que ça ne va pas du tout être le cas. Si on ne peut pas faire les contrôles sur les chantiers, vous croyez que ça va être beaucoup plus facile de contrôler le niveau de français des...
Si on est capable de contrôler
le niveau de français des ouvriers, on est aussi capable de contrôler la fraude, le temps passé dans contrôler certaines choses et pas d'autres.
Parce que l'inspection du travail a des prérogatives qui lui sont propres, alors que le contrôle du français sur les chantiers, c'est tout autre chose.
Il y a une autre question qui se pose aussi, c'est celle de la légalité de cette clause. Puisque on l'a dit, il y a la légalité qui pourrait peut-être opposer à celle de la législation européenne, la libre circulation des travailleurs, par exemple. Est-ce que ça, ce serait défendable?
Ah non, non, donc ça contrevient complètement la liberté de circulation des travailleurs et donc le droit européen, mais pas seulement le droit européen, puisque le préfet d'Île-de-France a rappelé que c'était aussi contraire au droit français. Donc, de toute façon, c'est une promesse que vous sortez peu de temps avant les élections et que vous n'allez pas pouvoir tenir. Donc, à quoi sert-elle ? Non, non, vous avez beaucoup parlé, laissez-moi juste dire quelque chose. Si vraiment votre but, c'est de permettre aux petites entreprises de travailler, il y a d'autres manières de procéder qui pourraient donner des avantages aux entreprises et qui, elles, ne désigneraient pas l'étranger comme l'ennemi et qui seraient légales. Par exemple, on pourrait augmenter la note qui est donnée à l'impact carbone, ce qui permettrait, effectivement, aux entreprises plus de proximité d'avoir plus de chances de gagner les marchés publics.
Il y a plein de choses
à faire qui sont légales et qui permettraient effectivement de donner ici et là des avantages à des entreprises locales. On doit travailler sur la proximité, mais voilà, c'est une autre manière de voir le monde, c'est une autre manière de faire les choses. Et quand vous dites que vous ne faites pas de politique politicienne juste avant les élections, je suis désolée, je suis absolument pas d'accord avec vous.
Chère madame, la clause Molière, elle existe depuis maintenant 18 mois. Elle est mise en œuvre dans un certain nombre de marchés publics depuis 18 mois. Il se trouve que les médias, s'y sont intéressés récemment. Il se trouve qu'on est en période électorale, mais il y a 18 mois, nous n'étions pas spécialement en période électorale. Et un certain nombre d'élus, dans des régions et dans des villes, ont jugé la chose suffisamment intéressante et importante pour pouvoir la mettre en œuvre. Après, 18 mois après, les médias s'en saisissent, tant mieux.
Parce qu'elle est passée en Île-de-France la semaine dernière, quand même, monsieur.
Depuis 18 mois, Montfermeil, chère madame.
Mais ce ne sont pas seulement les médias, hein, si je puis me permettre. Les réactions aussi au niveau politique, au niveau européen, datent d'il y a quelques semaines. Ce n'est pas seulement les médias qui s'occupent de faire monter un sujet.
Si vous trouvez un bon système pour éviter le dumping social auquel nous sommes confrontés, que ce soit par le carbone ou par toute autre chose, moi, je suis prêt à discuter autour de la table de ces mesures-là. Le vrai problème, il est là et on ne va pas tourner autour du pot. Faire une traduction idéologique, je dirais, de l'étranger ennemi, ce n'est pas recevable, c'est tout.
Bah, c'est un argument qui est celui de vos adversaires.
Oui,
c'est le principe d'un débat. Et alors, il y a aussi quelque chose qu'on oppose parfois à ceux qui défendent cette clause Molière, c'est finalement la question de la différence que vous faites entre cette clause Molière et la préférence nationale, qui est évidemment, alors vous allez m'accuser d'être dans les principes, mais qui est défendue par le Front National. Est-ce que vous faites une différence
ou madame, pas? Je suis maire d'une ville qui a un tiers de sa population qui est de nationalité étrangère. Bien. Et que c'est souvent elle qui est en insertion économique, avec un minimum de difficultés. C'est la raison pour laquelle nous organisons l'apprentissage du français, qui est le premier vecteur d'insertion économique et sociale, que nous avons des modes d'apprentissage des métiers appropriés, à justement cette difficulté linguistique que nous avons au regard de la grande diversité. J'ai plus de 40 à 60 nationalités différentes, ce qui est considérable. Et c'est justement pour ces populations-là que nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité de trouver des chantiers d'insertion, puisqu'il y a l'obstacle de la langue, et l'obstacle, je dirais, des modes de vie, des rythmes de vie, etc. Puisque les travailleurs étrangers, détachés, viennent, je dirais, en groupe, sont extrêmement solidaires entre eux et ont leur propre mode de vie totalement entre eux, ne se mélangent absolument pas au reste, ils sont sur un chantier...
C'est
la réalité de la vie sur les chantiers, c'est la réalité de l'échange que l'on peut avoir ou pas avoir avec ces personnes sur les chantiers, c'est leur capacité, je dirais, à faire partager et à insérer quelqu'un, à leur montrer. Ils ne sont absolument pas disposés au regard notamment de la barrière de la langue à apprendre à quelqu'un son métier. Et nous, on se retrouve.
Mais attendez, Molière pour arriver vers la manière dont vivent certaines personnes qui travaillent sur les chantiers.
Parce que la réalité, chère madame,
vous élargissez.
Mais non, parce que si vous êtes heureux de voir des pères de famille qui s'absentent plusieurs mois durant de leur famille, qui sont logés dans des conditions épouvantables et qui, parce que je dirais le soir, les après midi sont longues et le week-end est long, travaille jusqu'à 21h le soir, tout le samedi, dans des conditions de sécurité que personne ne va vérifier.
Oui, mais pardonnez-moi, mais là, la question n'est pas du tout celle de la langue. C'est totalement différent, alors que la clause Molière parle de la langue.
Ça y participe, et donc je pense que ce phénomène est suffisamment inquiétant pour qu'à un moment donné, on dise stop. Alors faites ça par le carbone ou faites ça par la langue, peu importe, il y a un phénomène qui est préjudiciable.
D'accord, donc on voit bien que vous parlez d'autre chose. Je suis désolée, je suis obligée de vous couper puisqu'on doit terminer. Merci beaucoup à vous deux. Xavier Lemoine, vice-président du Parti chrétien-démocrate. Anne Le Breton, adjointe au maire du 4e arrondissement à Paris, soutien d'Emmanuel Macron. Merci également à Marjorie Bertin, à Florence Ponce et à Valentin Vanner. On se retrouve lundi pour un nouveau débat.